Bienvenue dans le 7-9, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 7 avril. Bonjour Anaïs Feuga.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, l'étau qui se resserre dans l'est de l'Ukraine, désormais cible principale du Kremlin. Les autorités ukrainiennes implorent la population de partir au plus vite. On voit ça Anaïs dès le début du journal, après les autres titres.
Un peu passé sous les radars, mais avec l'inflation, les associations de locataires s'inquiètent, les loyers pourraient bientôt augmenter. Des locomotives plus propres pour les trains de fret. Alstom et Engie développent des trains à l'hydrogène vert. Et 1 et 2 et 3 buts, nouveau triplé de Karim Benzema qui terrasse Chelsea hier avec le Real.
Les invités d'Inter ce matin avec vous Léa,
oui,
à 7h50.
Les crimes de guerre à Boutcha et d'autres villes ukrainiennes seront-ils un jour punis? Comment rassemble-t-on les preuves? Comment on traque les criminels? Pour tenter de comprendre, on reçoit le colonel Éric Emereau, ancien chef de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre, et l'avocate pénaliste auprès de la Cour pénale internationale, Rachel Lindon.
A tout à l'heure Léa, on se retrouvera Léa à 8h20 pour la suite de notre série de 12 grands entretiens avec les 12 candidats à l'élection présidentielle. Ce matin, le candidat écologiste Yannick Jadot, vous avez largement la parole dans ces entretiens, vous le savez amis auditeurs, alors appelez-nous au 01 45 24 7000.
France Inter. Il est encore temps de partir, de quitter le Donbass avant une offensive majeure de la Russie. Laisser sa maison, son travail et sa vie derrière soi pour ne pas subir le sort des habitants de Boutcha. Depuis hier, les autorités ukrainiennes implorent la population. Partez immédiatement sous peine de risquer la mort dans les prochains jours, dit la vice-première ministre. Les deux provinces du Donbass, en partie contrôlées par les Russes, sont désormais cible numéro un des hommes de Vladimir Poutine. Et la situation y est de plus en plus tendue, Franck Madon.
Nous serons francs, la situation empire chaque jour, il faut prendre le risque de partir. C'est le gouverneur de Louhansk qui parle sur sa chaîne Telegram. Sergui Gaïdaï constate que les bombardements s'intensifient dans sa région, couloirs humanitaires ou non. Il exhorte les habitants à fuir pendant qu'il est temps et donne quelques détails dans une interview diffusée sur ce même canal.
Tous les jours, on évacue au moins 1000 personnes de la région, parfois 1500, jusqu'à 3000 personnes. Concernant la dangerosité de ces opérations, c'est évidemment très compliqué. Ceux qui partent sont visés par les tirs d'artillerie, les missiles Grad, les bombardements aériens. C'est très difficile d'extraire les gens d'une telle situation qui est à peine croyable.
Les Russes continuent à pilonner des localités du Donbass qu'ils n'ont pas encore conquises, comme Severodonetsk, la ville la plus à l'est contrôlée par les Ukrainiens. Ils ne sont qu'à une vingtaine de kilomètres de Sloviansk et Kramatorsk, les deux plus grandes villes encore tenues par l'armée ukrainienne dans le Donbass. Sloviansk pourrait devenir un enjeu majeur dans les jours à venir. En face, les Ukrainiens creusent des tranchées, piègent les routes, attendent l'aide militaire occidentale. D'après Washington, il faudra peut-être plusieurs semaines avant que les Russes soient redéployés et prêts à une nouvelle offensive dans l'Est.
Il faut partir tant que la possibilité de couloir existe, insistent les autorités. Deux cars ont évacué hier quelques dizaines de personnes âgées. Les Ukrainiens redoutent une situation comme celle de Mariupol, assiégée depuis plus d'un mois, encore bombardée, accès humanitaire bloqué parce que selon le président ukrainien, tant que tout n'aura pas été nettoyé par les soldats russes, ils ont peur que le monde voie ce qu'il s'y passe. Ils craignent des victimes qui se compteraient par dizaines de milliers. Sans compter Mariupol, la justice ukrainienne s'est déjà saisie de plus de 4000 dossiers d'exaction. La vice-procureure générale d'Ukraine, Irina Venediktova, était à Boutcha il y a quelques jours.
L'ennemi, en quittant le territoire, laissait derrière lui la mort, puisqu'il minait absolument tout, les appartements, les voitures et même les cadavres. Dès les premiers jours de cette guerre, ils se comportaient comme s'ils pouvaient, sur cette terre, faire ce qui bon leur semble. Et ils commettaient des sauvageries, des actes de sauvagerie, pensant que personne ne les punirait pour cela. Ils violaient, tuaient des civils désarmés qui ne représentaient aucune menace pour eux. Et ce comportement des militaires du pays agresseur laisse à comprendre qu'en fait, ils étaient très loin des normes de la loi et du respect des règles de la guerre.
La vice-procureure d'Ukraine avec Fabienne Saint-Esse hier soir dans Un jour dans le monde sur Inter. L'Assemblée générale de l'ONU vote cet après-midi sur une suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme et les ministres des Affaires étrangères du G7 et de l'OTAN se réunissent aujourd'hui à Bruxelles.
Et en France, il est 7h05, certains candidats à la présidentielle demandent l'intervention des casques bleus.
Qui doit pourtant être voté au Conseil de sécurité où la Russie a un droit de veto, mais c'est en tout cas la proposition de Jean-Luc Mélenchon des casques bleus de l'ONU pour sécuriser les centrales nucléaires en Ukraine.
Il faut s'en référer au statut de l'ONU, si mes souvenirs sont bons. Il interdit, c'est assez curieux, ça n'a jamais été pratiqué, à un pays qui est mis en cause d'opposer son veto. De plus, là aussi, si mes souvenirs sont bons, parce que vous me cueillez un peu à froid, le président François Hollande avait pris une décision que je trouve admirable. Il avait dit que chaque fois qu'il y aurait crime de masse ou crime contre l'humanité, la France s'engageait à ne jamais opposer son droit de veto. Donc nous, Français, nous sommes clean, en quelque sorte, nous sommes propres. Alors, par contre, je crois, et qu'il faut dire, c'est que on ne peut pas accepter, comme dirigeant politique, de poursuivre des relations dans la suite personnelles avec un homme comme Monsieur Poutine qui a la responsabilité personnelle de crimes de guerre. Parce que ce qui se passe là, c'est ce qu'on appelle des crimes de guerre, à supposer que la guerre elle-même ne soit pas un crime.
Jean-Luc Mélenchon, hier soir sur France 2, propose aussi de réquisitionner les stocks français de céréales. Au même moment, sur TF1, le chef de l'État jugeait scandaleux et infondé les propos du Premier ministre polonais sur ses entretiens téléphoniques avec Vladimir Poutine. Emmanuel Macron accusant le chef du gouvernement polonais proche de l'extrême droite de soutenir sa rivale Marine Le Pen. Le candidat Macron, qui dans le Figaro aussi dit vouloir lancer, je cite, les grands chantiers, école, santé, justice dès la première année et indexer les retraites sur l'inflation dès cet été et les réformer ensuite à l'automne. Car le sujet devient brûlant avec l'inflation à plus de 4% en mars. Les loyers ne devraient plus tarder à grimper à cause du mécanisme de réévaluation quasi automatique dans le privé et le public, ce qui inquiète déjà les associations de locataires. Claire Chaudière.
Il y avait déjà la flambée des charges, sujet encore aujourd'hui très sensible malgré le bouclier tarifaire. Mais il faut désormais anticiper autre chose, avertit Eddy Jacquemart de la Confédération nationale du logement.
On est très inquiet sur l'augmentation potentielle des loyers qui va arriver, puisque on a regardé un petit peu les chiffres. Raisonnablement, on sera entre 2 et 3% d'augmentation, puisqu'en fait, dans l'IRL, il y a beaucoup de composantes de prix.
IRL pour indice de révision des loyers, chiffre actualisé tous les trimestres, qui évolue donc avec l'inflation. Le prochain doit tomber dans les jours qui viennent. À la clé, des hausses mécaniques sur les quittances, mais qui ne peuvent pas intervenir n'importe quand, explique Jean-Claude Drian, spécialiste logement et professeur à l'école d'urbanisme de Paris.
Le principe, c'est que le propriétaire peut donc, à chaque date anniversaire du bail, actualiser le loyer en fonction de l'indice de révision des loyers précédents. De fait, ça va mordre sur le pouvoir d'achat des ménages. C'est un élément d'évolution du pouvoir d'achat qui est probablement pas encore tout à fait anticipé par les acteurs, mais qui va remettre la question du logement dans le débat politique.
Problématique clairement absente de cette campagne présidentielle, regrette cet expert. Selon les représentants des locataires, se posera inévitablement dans les mois qui viennent la question d'un éventuel gel des loyers, au moins dans le parc social.
De son côté, Éric Zemmour propose pour le pouvoir d'achat des classes moyennes la suppression de la redevance télé et une grande politique familiale basée sur l'universalité des allocations familiales. Il veut 28 milliards d'euros de baisse d'impôts. Le candidat d'extrême droite de Reconquête sera ce soir à Paris en meeting au Palais des Sports. Une nouvelle manifestation en Corse et une nouvelle fois des violences, cette fois à Bastia. Hier soir, la préfecture, le commissariat et le bâtiment de la Banque de France attaqués à coups de cocktail Molotov par des militants nationalistes. L'épidémie de Covid ne progresse plus, le nombre de nouvelles contaminations n'augmente plus, 135 nouveaux cas quotidiens tout de même en moyenne. En revanche, la tendance reste à la hausse à l'hôpital. L'Institut Pasteur anticipe un plateau pour les jours qui viennent.
Au Mali, il est 7h09, la justice militaire décide finalement d'ouvrir une enquête.
Sur l'exécution de masse de civils à Moura fin mars par des soldats maliens et des combattants étrangers, l'armée a toujours soutenu avoir neutralisé 203 djihadistes. Les ONG rapportent au contraire des exécutions sommaires, des pillages et des viols, un témoin raconte dans le journal de 7h30. Lundi, le GIEC demandait aux décideurs de la planète de réduire de 60% l'usage du pétrole d'ici à 2050. Aujourd'hui, le Canada, quatrième producteur mondial, approuve un méga projet pétrolier offshore très controversé en plein Atlantique à 500 km au large de Terre-Neuve, porté par le géant norvégien Equinor. Mise en service prévue en 2028 pour extraire des centaines de millions de barils sur 30 ans. Le monde a besoin de pétrole, dit le ministre de l'Environnement canadien qui vient de donner son aval. En France, à l'inverse, on cherche à se débarrasser des milliers de locomotives au diesel très polluantes et qui roulent encore sur le réseau de fret ferroviaire européen. Le constructeur Alstom et Engie vont développer ensemble des trains de marchandises à l'hydrogène vert, Sandy Dauphin.
3000 locomotives diesel roulent encore sur le réseau ferroviaire européen. L'idée est de les remplacer par des locomotives électriques, mais comme tout le réseau n'est pas électrifié, Alstom mise sur des trains électriques autonomes sur certains tronçons grâce à l'hydrogène. Raphaël Bernardelli, vice-président en charge de la stratégie d'entreprise chez Alstom.
Notre solution va venir en complément des locomotives électriques, venir apporter une source d'énergie et donc une pile à combustible pour convertir cet hydrogène en électricité afin que la locomotive électrique puisse fonctionner sur les réseaux non électrifiés, donc quand elle ne pourra plus capter son courant à travers la caténaire. Puisque en Europe, l'électrification du réseau est à peu près de 50%.
Alstom mise sur la croissance du fret ferroviaire et sur le train de marchandises à hydrogène comme une alternative crédible au camion.
De toute façon, aujourd'hui, il est très clair que les principaux pollueurs sont sur les routes. Ce n'est pas un scoop. Donc, il y a beaucoup à faire dans le secteur et Alstom veut s'inscrire dans cette démarche en proposant des solutions innovantes et 100% décarbonées.
L'Europe prévoit d'arriver à une part de marché du fret ferroviaire de 30% en 2030 contre 18% aujourd'hui. En France, le train ne concerne que 9% des marchandises transportées.
Il a 37 ans, l'un des plus beaux palmarès du tennis français et il va tirer sa révérence après son 15e Roland-Garros. Joe Wilfried Tsonga annonce sur les réseaux sociaux que le corps a dit stop. Lui a 3 ans de moins et il est encore en pleine forme. Karim Benzema a crucifié Chelsea hier avec son triplé 3-1 pour le Real Madrid, quart de finale aller de la Ligue des champions de football. Jean-Pierre Blimeau, l'attaquant français, porte son équipe et soigne ses statistiques.
Avec désormais 316 buts sous les couleurs madrilènes, Karim Benzema continue d'affoler les compteurs avec une étonnante régularité. Il a désormais marqué 37 buts en 36 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Son préféré hier soir, il le donne à nos confrères de Canal+.
Les trois sont importants, mais je dirais le deuxième en finesse de la tête. C'est bien pour la confiance.
Et lorsqu'on demande que doit-on penser de Karim Benzema à son entraîneur, voici la réponse de Carlo Ancelotti.
Chaque jour, un peu meilleur, comme le vin. Il fait les différences. Il sait bien qu'il est un joueur très important, avec une grosse personnalité. Et pourtant, il garde un comportement exemplaire pour tous.
Exemplaire aussi pour ses supporters comme Jacob, venu exprès à Chelsea depuis le Maroc pour ce match.
C'est incroyable mais vrai. Il marque des triplés, des doublés, il donne des passes décisives. C'est fantastique.
Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire là ?
On t'aime, la France t'aime, l'Espagne t'aime, Madrid t'aime. Et vive Karim Benzema.
Le capitaine du Real est aussi le premier Français à marquer 10 buts dans une même saison en Ligue des Champions et seulement le 4e joueur de l'histoire à réussir 2 triplés en 2 matchs consécutifs dans cette compétition européenne. Chelsea, Jean-Pierre Blimeau, France Inter.
Et hier soir, le Bayern Munich s'est incliné 1-0 à Villarreal.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le feuilleton de la France. Aujourd'hui, l'épisode 18 après le Covid des collègues covoitureurs.